numéro 1 Afrique, Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du lundi 24 juillet 2023. Bonjour à toutes et à tous en direct de Washington. Idrissa Sebulia pour commencer les titres. En Burkina Faso, les populations financent la guerre contre les djihadistes, certains partenaires refusant d'aider le pays, annonce le président de la transition. Par ailleurs, présence au Burkina d'une mission de l'Union africaine pour évaluer la situation. En RDC, 13 morts, dont au moins 9 enfants, après une fusillade en Ituri, dans le nord-est. Au Cameroun, 16 morts dans l'effondrement d'un immeuble à Douala. La Russie remplacera les céréales ukrainiennes à destination de l'Afrique, assure le président russe Vladimir Poutine. En Espagne, début des tractations pour éviter de nouvelles élections. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Au Burkina Faso, le président de la transition a affirmé ce week-end que ce sont les populations qui financent la guerre, car certains partenaires refusent d'aider le pays. Il a justifié l'instauration de nombreuses taxes pour l'acquisition de matériel devant servir à lutter contre le terrorisme. De Ouagadougou, notre correspondant, Lamine Traoré.
La visite du capitaine Ibrahim Traoré a eu lieu dans un camp de formation de soldats situé dans la périphérie de Ouagadougou. À la télévision nationale, il encourage ses militaires à se battre. Il a reconnu que la puissance de l'ennemi a beaucoup augmenté sur le terrain, mais qu'il faudra s'équiper 1000 fois plus, s'entraîner et se former correctement pour la guerre. Selon lui, depuis octobre, plus d'1 milliard de francs CFA ont été collectés à la suite d'un appel à contribuer à un effort de guerre pour la reconquête du territoire national.
Tout ce que vous voyez, c'est pour la population. C'est eux qui ont contribué. Donc toutes les taxes qu'on récupère depuis là, tout ce qui est commandé, c'est la sueur du peuple. Donc on se doit aussi d'expliquer ça aux masses populaires pour qu'ils comprennent.
Le président de la transition a avoué que des partenaires refusent de soutenir et même de vendre des armes au Burkina, alors que selon lui, c'est le peuple qui fait sa guerre. Il a salué la Chine qui est un nouveau partenaire et qui donne régulièrement des armes au Burkina. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Merci Lamine. Signalons aussi qu'une mission de l'Union africaine se trouve au Burkina Faso qui est suspendue de l'organisation panafricaine. C'est Eric Manirakidza qui nous en parle.
Arrivée samedi soir à Ouagadougou, cette délégation du Conseil Paix et Sécurité de l'Union africaine composée de 31 membres et conduite par l'ambassadeur Mohamed Lamine Thiaw a eu dimanche une séance de travail à huis clos avec le gouvernement burkinabé. Il est de notre devoir de venir au Burkina Faso au regard de la situation que traverse le pays, surtout les questions qui concernent le volet sécuritaire et humanitaire, a déclaré M. Thiaw avant le début de cette rencontre. Après la séance de travail avec le gouvernement, cette délégation qui séjourne à Ouagadougou jusqu'à mercredi doit rencontrer le président de transition et auteur du dernier putsch de septembre 2022, le capitaine Ibrahim Traoré, le premier ministre Apollinaire Joachimson Kielem de Tambela et le président de l'Assemblée législative de transition Ousmane Bougouma. Depuis 2015, le Burkina est pris dans une spirale de violence perpétrée par des groupes djihadistes liés à l'État islamique et à Al-Qaïda. Ils ont fait plus de 16 000 morts civiles et militaires et ont entraîné le déplacement de quelques 2 millions de personnes.
Dans le nord-est de la République démocratique du Congo, un militaire congolais a tué au moins 13 personnes, dont au moins 9 enfants, par arme à feu en Ituri. Rosine Mounezero.
Ce militaire de la force navale n'a pas supporté que son enfant ait été enterré en son absence la veille de son arrivée dans le village de Nyakova, selon des témoignages. Il a tiré sur des civils rassemblés samedi soir au lieu du deuil, au motif que l'enfant a été enterré sans qu'il soit informé, alors qu'il était dans son unité à Gobu, à 55 km du lieu de décès, a déclaré le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de l'armée dans la province de l'Ituri. Le groupe d'experts du baromètre sécuritaire du Kivu a confirmé les circonstances de ce drame, ainsi que le bilan de 13 civils tués qui auraient participé à l'enterrement de son fils décédé en son absence. Le militaire est en cavale, il est recherché pour être jugé, a précisé le lieutenant Jules Ngongo.
Au Soudan, l'armée a annoncé que 9 personnes, dont 4 soldats, sont mortes dimanche soir dans le crash d'un avion civil à Port-Soudan. C'est le seul aéroport en fonctionnement du pays, sur la côte est, épargné par la guerre sanglante qui fait rage depuis plus de 3 mois entre l'armée et les paramilitaires. Pendant ce temps, un comité de quartier à Khartoum a lancé à la population un appel urgent aux dons de nourriture pour survivre. Au Cameroun, l'effondrement d'un immeuble d'habitation à Douala, la capitale économique, a fait au moins 16 morts et 5 blessés en urgence absolue, Alexandrine Hollognon.
Dans la nuit de samedi à dimanche, un immeuble d'habitation de 4 étages situé dans le nord de Douala s'est effondré sur un autre bâtiment résidentiel d'un étage. Le bilan provisoire s'établit à 16 morts, 21 blessés, dont 5 en urgence absolue et 37 victimes, selon un officier supérieur des pompiers. Les autorités ont coordonné les secours et le déblaiement dans l'espoir de retrouver les survivants. Les opérations se sont poursuivies, la situation est sous contrôle et les pompiers travaillent pour que personne ne reste sous les décombres, a déclaré Samuel Dieudonné Ivaya Dibois, le gouverneur du littoral, l'une des 10 régions du Cameroun qui s'est rendue sur place. En 2016, l'effondrement d'un bâtiment d'habitation avait fait 5 morts à Douala. En juin de la même année, les autorités avaient identifié au moins 500 immeubles en ruine et avaient soulevé la question du respect des normes de construction.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président russe Vladimir Poutine a garanti ce lundi que Moscou remplacerait les céréales ukrainiennes à destination de l'Afrique après l'abandon par le Kremlin d'un accord céréalier crucial pour l'alimentation mondiale et à l'approche d'un sommet Russie-Afrique. Je souhaite rassurer sur le fait que notre pays est capable de remplacer les céréales ukrainiennes sur une base commerciale et sans frais, d'autant que nous attendons une autre récolte record cette année, a écrit M. Poutine dans un article publié sur le site du Kremlin. Nonobstant les sanctions, la Russie poursuivra ses efforts énergiques pour assurer la distribution de céréales, de produits alimentaires, d'engrais et d'autres biens vers l'Afrique. Le réseau des ambassades russes et des missions commerciales en Afrique sera élargi, a ajouté M. Poutine, alors que doit s'ouvrir ce jeudi un sommet Russie-Afrique dans la ville russe de Saint-Pétersbourg. La Russie a affirmé lundi avoir neutralisé 2 drones ukrainiens à Moscou durant la nuit, dont un s'est écrasé près du ministère de la Défense, tandis que de nouvelles frappes ont touché la Crimée annexée par Moscou et la région d'Odessa dans le sud de l'Ukraine. La région de Moscou n'avait pas été la cible de drones depuis près de 3 semaines. L'attaque intervient après que Kiev a promis des représailles aux frappes russes sur Odessa, menées ce week-end, qui ont fait 2 morts et ravagé une cathédrale. Et aujourd'hui, l'armée ukrainienne a annoncé une attaque russe sur une infrastructure portuaire près d'Odessa. Un hangar à grains a été détruit, selon elle. En Espagne, au lendemain d'élections qui n'ont pas permis de dégager une majorité, le premier ministre socialiste Pedro Sánchez et son rival conservateur Alberto Núñez Feijóo, dont le parti a remporté le plus grand nombre de députés, vont entamer dès ce lundi des tractations pour tenter d'éviter de nouvelles élections. Déjouant tous les sondages qui le donnaient largement battu depuis des mois, M. Sánchez est parvenu à limiter les gains de l'opposition de droite qui n'a pas obtenu la majorité absolue. Le président Joe Biden a exhorté Israël dans un communiqué dimanche à ne pas précipiter la réforme judiciaire, de plus en plus source de division, compte tenu des défis auxquels est confronté l'allié des États-Unis. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou cherche dès ce lundi à soumettre au vote de la Knesset, le Parlement israélien, sa proposition controversée visant à réduire le pouvoir des juges.
La Minute Éco, Nathalie Barge.
La compagnie internationale CSG a annoncé l'achèvement de son projet de transformation numérique avec Airtel Africa, fournisseur de services de télécommunications et financiers mobiles dans 14 pays d'Afrique. Il s'agit de simplifier les processus, réduire les coûts et raccourcir le délai de mise sur le marché. Le directeur de la technologie chez Airtel Africa, Razan Ungurenu, a estimé que la compagnie vise à fidéliser les clients à vie. La Société mondiale d'infrastructures et de paiement TerraPay a annoncé un partenariat avec Safaricom, principal fournisseur de TIC et de services financiers du Kenya. Les deux entreprises vont faciliter les paiements transfrontaliers instantanés. Ce partenariat, par l'intermédiaire du fournisseur de services de transfert de fonds Mobex, permettra à plus de 30 millions de personnes au Kenya d'envoyer des paiements en temps réel au Bangladesh, au Pakistan et ensuite en Inde et au Népal. Le Nigeria prévoit de collecter 7 500 milliards de naira d'impôts, soit plus de 9,6 milliards de dollars au deuxième semestre 2023, après une performance record au cours des 6 premiers mois de l'année. Le président du service fédéral des impôts, Mohamed Nami, a précisé que la précédente performance s'explique par l'amélioration de la conformité fiscale volontaire des contribuables et le renforcement de l'autonomisation des processus de l'administration fiscale.
Merci Nathalie. À présent, les sports avec Élisée Compatine. Élisée, bonjour.
Oui, bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Le premier tour du mondial féminin de football se poursuit en Australie et en Nouvelle-Zélande.
Oui, et entrer en lice aujourd'hui du dernier représentant africain, le Maroc, qui jouera contre l'Allemagne, un adversaire redoutable, reconnaît le sélectionneur des Lions de l'Atlas qui veut s'inspirer de la performance des hommes demi-finalistes du dernier mondial au Qatar. Renard Pedrous, au micro d'Amin Birouk, notre correspondant à Casablanca.
On a un premier match qui est difficile, mais un premier match tellement excitant de jouer cette équipe d'Allemagne qui est vice-championne d'Europe et qui participe à cette Coupe du Monde pour la gagner. D'abord, ce que je tiens à dire à mes joueuses, c'est qu'il y a 3 matchs. Et que après ce premier match, même s'il y a un résultat négatif ou un résultat positif, il faudra jouer des autres pour se qualifier. Voilà, donc très sincèrement, je pense que nous, on s'est inspiré, on s'est appuyé sur ce qu'a fait l'équipe nationale marocaine à la Coupe du Monde masculine. Dans l'état d'esprit, dans l'envie, dans la détermination. Voilà, c'est quelque chose pour nous qui est très important.
Maroc-Allemagne, coup d'envoi du match tout à l'heure à partir de 8h30 temps universel. Et après ça, on suivra le dernier match de cette première journée des matchs de poule qui va opposer le Brésil au Panama.
Un début de compétition timide pour les représentantes de l'Afrique.
Un seul nul obtenu par le Nigeria 0-0 face au Canada. Sinon, rien que des défaites. La Zambie qui a pris l'eau 5-0 contre le Japon. Et puis l'Afrique du Sud, championne d'Afrique en titre, y a cru avant de céder dans les derniers instants du match. Battu 2-1 par la Suède. Les deux équipes ont l'obligation de se relancer ce mercredi. Les Zambiennes joueront l'Espagne et les Sud-Africaines croiseront l'Argentine le vendredi.
Chez les hommes, les compétitions africaines des clubs reprennent dans quelques semaines, notamment la Coupe de la CAF. Certains clubs sont déjà en pleine préparation.
Tout à fait. Le cas du club béninois Loto Popo qui a affronté ce dimanche en amical dans son stade à Grand Popo la sélection locale du Togo qui se prépare pour le CHAN. Au terme des 90 minutes, l'équipe de la Loterie Nationale, deuxième du dernier championnat du Bénin, s'est inclinée 1-2. Pour Zerou Abdoulaye, entraîneur adjoint de Loto Popo, le plus important c'était de voir les joueurs qui étaient en essai.
L'essentiel n'était pas forcément là, vous l'avez vu, parce qu'on a mis quand même une équipe avec des joueurs que nous sommes en train de tester en gros sur la première partie, quasiment 10 joueurs sur 11. Donc c'est difficile quand même de tirer des conclusions. Donc maintenant, je pense qu'on a pu quand même voir certaines choses et qu'il va falloir les corriger très vite parce que les échéances à venir ne vont pas tarder.
Lotto Popo connaîtra ce mardi son adversaire du premier tour de la Coupe CAF, dont le tirage au sort aura lieu au Caire en Égypte. Les dates aussi de ce tour préliminaire sont connues. Les matchs aller auront lieu entre le 18 et le 20 août, alors que ceux du retour seront disputés entre le 25 et le 27 août.
Merci, Élisée.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seloudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République centrafricaine, c'est la dernière ligne droite pour la campagne référendaire. Le vote est prévu le 30 de ce mois, mais le projet de nouvelle constitution suscite une tension politique et alimente les débats dans le pays. Notre correspondant à Bangui, Freeman Sipila, fait le point.
Depuis la publication du contenu du projet de la nouvelle constitution soumis au référendum le 30 juillet, la tension politique est montée d'un cran dans le pays. Les défenseurs de cette nouvelle loi fondamentale assurent qu'une fois adoptée, le texte fera décoller le pays sur tous les plans. La campagne référendaire se poursuit. Elle est dominée par la polémique sur les questions de la double nationalité, la levée du verrou de la limitation du mandat présidentiel et de la suppression du Sénat. Pour le bloc républicain, pour la défense de la constitution, la principale plateforme de l'opposition, ce projet de nouvelle loi fondamentale va replonger le pays dans le chaos. Ce front appelle au boycott. Martin Ziguélé, porte-parole du BRDC.
L'objectif du président Faustin Archange Touadéra, c'est de demeurer à vie au pouvoir. Nous allons continuer à mobiliser la population pour qu'elle s'oppose à ce coup d'État constitutionnel.
Selon l'article 67 du projet de la nouvelle constitution, les binationaux sont écartés de la course à la présidentielle pour la plateforme des partis centristes. Cette disposition est une discrimination, d'où l'appel au vote du non. Dieudonné Ngumbangu, coordonnateur de cette plateforme.
Nous estimons, nous centristes, que la longévité au pouvoir ne garantit aucunement la croissance et le développement d'un pays. Quand on est ou quand on acquiert la nationalité centrafricaine, on a les mêmes droits. C'est pour ces raisons que la plateforme des partis politiques centristes appelle à voter non.
Sur la question des binationaux et de la levée du verrou de la limitation du mandat présidentiel, Évariste Ngamana, cadre du parti au pouvoir MCU et directeur national de campagne du Oui, répond.
On définit la démocratie comme étant le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Vouloir limiter le mandat, c'est aller aussi contre la volonté du peuple. C'est une forme de dictature. Si le peuple estime que tel ou tel leader fait bien son travail et qu'il doit poursuivre, il appartient au peuple de décider pendant les élections. Aujourd'hui, c'est un problème qui doit être réglé définitivement.
Appel au boycott, appel à voter non. Si l'opposition manque de moyens pour battre campagne, en dehors des interviews à la radio, les partisans du Oui sont visibles et mobilisent à travers le pays. Anne Yindoua, présidente de l'Organisation des femmes centrafricaines, appelle à voter Oui.
Nous allons continuer d'expliquer point par point aux femmes qu'est-ce qui est écrit dans cette constitution. Toutes ces femmes-là vont s'impliquer dans ce que nous sommes en train de faire pour que toutes les femmes puissent voter Oui pour le référendum.
À moins d'une semaine du scrutin, l'Autorité nationale des élections indique que toutes les dispositions sont prises pour la réussite du vote. Malgré de nombreuses menaces d'attaques armées, la campagne se déroule pour le moment dans le calme. L'inquiétude demeure quant à la sécurisation du référendum. La MINUSCA a indiqué n'avoir pas mandat de sécuriser le vote, mais un nouveau contingent d'insulteurs russes que les Occidentaux appellent des soldats du groupe paramilitaire russe Wagner sont déjà à Bangui pour sécuriser les opérations de vote. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui sur le 101.7 FM.
Le président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, et son homologue rwandais Paul Kagame invitent les pays africains à dépasser les frontières géographiques pour consolider la coopération intra-africaine. Les deux présidents ont lancé le rappel à l'occasion d'une visite de 3 jours que Denis Sassou Nguesso a achevée dimanche au Rwanda. De Kigali, Jean Damascène Manishimwe.
Le périple du président Denis Sassou Nguesso de la République du Congo au Rwanda a été dominé par l'annonce de la levée de visa pour les populations rwandaises et congolaises. Pour le président rwandais Paul Kagame, les pays africains ne devraient pas s'enfermer sur eux-mêmes.
It means we are there for each other.
Et ça veut dire qu'on est là l'un pour l'autre. Et quand il y a un problème dans un pays, nous pouvons travailler ensemble pour le résoudre. Et s'ils surgissent dans un autre pays, on fait de même. C'est comme ça que les gens devraient vivre. Nous ne devrions pas laisser ces frontières artificielles empêcher aux gens de faire ce qu'ils devraient faire pour eux-mêmes. Le président congolais Denis Sassou Nguesso a pour sa part souligné qu'en plus de la coopération, le développement de l'Afrique exige la consolidation de la paix d'abord.
Il n'y a ni salut, ni développement sans la paix. C'est pourquoi il nous faut toujours prôner le bon voisinage et la cohabitation pacifique pour une intégration effective et irréversible des peuples d'Afrique. Cette option qui défie les frontières, rapproche les peuples et favorise la solidarité et la complémentarité.
Certains analystes politiques estiment que la coopération entre pays africains pourrait permettre au continent de mieux faire entendre sa voix dans le concert des nations en se libérant du passé colonial. C'est en tout cas le point de vue de Trésor Omono, un citoyen congolais, spécialiste de l'accompagnement et du financement des projets de développement.
Nous devons maintenant privilégier la coopération sud-sud, vous savez, c'est pas un secret. La coopération sud-nord, ça a posé beaucoup de problèmes à l'Afrique parce qu'il y a d'autres qui étaient en position de force et abusant, profitant un peu de l'Afrique. Mais aujourd'hui, avec des coopérations sud-sud, vous pouvez déjà voir ce qui se fait. Donc, les relations sont assez équilibrées, les accords sont bien profilés, et les deux pays, sinon les deux parties, arrivent à en profiter. Je pense que ce que le Rwanda fait aujourd'hui avec le Congo devrait servir de modèle pour d'autres pays. Et voilà, d'ici un moment, nous pensons que l'Afrique pourra vraiment sortir de la dépendance vis-à-vis de ses partenaires du Nord. Et cela va même équilibrer les relations entre le Sud et le Nord.
Pour cimenter leurs relations, le Rwanda et le Congo ont signé une trentaine d'accords de coopération. Les accords présentés par les présidents Paul Kagame et Denis Sassou Nguesso comme une volonté de rendre effective la zone de libre-échange continentale africaine. Jean Damasen Manichimwe, VOA Afrique, Kigali.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24h sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé jeudi à réfléchir sur l'avenir des opérations de maintien de la paix. Il a souligné leurs limites dans un monde de plus en plus fragmenté et marqué par une évolution des conflits. Pour une analyse, Mohamed Humfa a joint Romuald Sciorra. Il est politologue, chercheur associé à l'Institut des relations internationales et stratégiques et auteur de plusieurs ouvrages sur l'ONU.
Les opérations de maintien de la paix ont été créées car l'ONU, malheureusement, n'a pas pu mettre en place la sécurité collective qui était prévue au chapitre 7 de sa charte. C'est-à-dire que l'ONU, lors de sa création, avait pour objectif de réussir à créer une force d'intervention afin de maintenir ou de restaurer la paix en cas d'urgence. Cela ne s'est pas fait. Et donc, à partir de 1948, essentiellement entre 1948 et 1956, les dirigeants onusiens ont réfléchi avec le Conseil de sécurité de l'époque à un mode de gestion des conflits qui pourrait convenir aux cinq membres permanents et aux autres pays influents au sein de l'organisation. Et donc on a créé les opérations de maintien de la paix. C'est vraiment à partir de 1956, avec l'affaire de Suez et la création des casques bleus, que l'on peut parler d'opérations de maintien de la paix.
Le secrétaire général de l'ONU a reconnu les limites des missions de paix et a appelé à réfléchir à leur avenir. Pourquoi cette sortie maintenant et qu'est-ce qui peut expliquer cette sortie?
D'abord, il est loin d'être le premier à proposer ce genre de choses. Boutros Ghali a proposé un véritable plan de refondation des opérations de maintien de la paix. Kofi Annan a tenté de relancer l'idée et Guterres aujourd'hui relance le projet. Alors, pourquoi? Après le retrait de la force de maintien de la paix au Mali à la demande du gouvernement malien, il est évident que l'opération de maintien de la paix ne fonctionne plus et non plus aucun poids sérieux sur le terrain. Deuxièmement, l'ONU est devenue un nain sur la scène politique internationale. L'ONU politique aujourd'hui n'existe plus. Regardons la crise en Ukraine. Aujourd'hui, l'ONU n'est présente que pour parler du climat, ce qui est très important. Hein, mais l'ONU a été créée à des fins politiques, afin de réguler la politique internationale. Conscient de tout cela, avec quand même beaucoup de retard, Guterres décide de remettre le sujet sur la table.
Comment rendre les missions de la paix onusienne plus efficaces, selon vous?
Il faudrait revenir à l'idée d'une forme d'intervention rapide dépendante de l'ONU, c'est-à-dire mettre à la disposition de l'ONU une armée professionnelle qui, lorsque le secrétaire général le jugerait nécessaire, bien évidemment après que cela a été approuvé par le Conseil de sécurité, pourrait, sans avoir à travailler des semaines, voire des mois pour former une opération de maintien de la paix, envoyer des troupes sur le sol. Il faudrait revoir les trois principes principaux des opérations de maintien de la paix, c'est-à-dire consentement des parties, donc des belligérants, l'impartialité et le recours à la force. Et croyez-moi, il n'y aura aucune réforme sérieuse. Les cinq membres permanents du Conseil de sécurité n'ont aucun intérêt à donner au secrétariat général la possibilité d'obtenir à moyen terme quelconque force d'intervention rapide.
Le politologue Romuald Sciorra de l'Institut des Relations internationales et stratégiques. Lancement au Cameroun de la 4e édition de l'initiative sénégalaise Oscar des Talents. Ce projet parrainé par le président sénégalais Macky Sall entend primer les meilleurs projets des jeunes et femmes du continent ou de la diaspora dans les domaines de l'élevage et de l'agriculture. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Jules Tap.
Jean-David Topoliken, jeune Camerounais, ingénieur en génie agroalimentaire, élève des escargots et postule cette année à l'initiative Oscar des Talents à Yaoundé.
À base de ce projet que j'ai lancé il y a de cela 5 ans, je me suis battu de moi-même pour atteindre mes objectifs. Je n'ai pas obtenu ce que j'attendais de la part du Cameroun. Actuellement, je produis entre 20 000 et 25 000 escargots chaque 3 mois. Et ma production est en train d'être améliorée dans le long terme pour que j'atteigne les 100 000 escargots d'ici 2025. J'ai besoin d'environ entre 2 millions et 503 millions.
Besoin d'argent et les lauréats peuvent bénéficier de financement. Karma Mor est président du projet Oscar des Talents.
Les jeunes qui ont à postuler vont faire un concours. On va sélectionner les meilleurs projets. Nous allons déjà les attribuer des formations. Maintenant, le projet, c'est entre 5 et 10 millions en francs CFA.
Cette année, la 4e édition se focalise sur certaines thématiques. Marie-Tou Diop, chargée des relations extérieures du projet Oscar des Talents, explique.
Oscar des Talents, c'est une grande organisation qui a mis en place des jeunes Sénégalais pour vraiment participer à la lutte contre la pauvreté, à la lutte contre le manque d'emploi, mais surtout à la lutte contre l'immigration illégale.
Le Cameroun va sélectionner son meilleur candidat le 2 décembre à l'issue d'un concours à projet. Joseph Tiana, secrétaire général du ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat.
Parce que quand on crée une entreprise, on crée de l'emploi pour soi-même, mais on en offre pour d'autres. Et on contribue à payer ses impôts, on contribue à développer notre pays. Pour cette édition qui concerne l'agriculture et l'élevage, c'est ce que nous appelons des secteurs prioritaires de développement. Parce qu'en matière d'agriculture et d'élevage, c'est des secteurs à fort potentiel de croissance. Ça veut dire que c'est des secteurs où on doit pouvoir investir parce que tout ce qu'on investit dans ces secteurs-là rapporte de l'argent.
La concurrence sera rude, mais bénéfique entre 9 candidats du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, du Niger, du Sénégal, du Togo et des résidents en France, en Italie ou aux États-Unis qui participent à l'initiative Oscar des Talents. Les lauréats seront connus à Dakar lors d'un grand festival le 3 avril 2024 et que le meilleur gagne. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sedulia, à la mise en onde de Michel Joseph, à la console Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.